Chapitre 5. Un garçon du caractère de Max devait se distinguer, et il se distingua si bien qu'en 3 campagnes il devint capitaine, car le peu d'instruction qu'il avait reçue le servit puissamment. En 1809, en Portugal, il fut laissé pour mort dans une batterie anglaise où sa compagnie avait pénétré sans avoir pu s'y maintenir. Max, pris par les Anglais, fut envoyé sur les pontons espagnols de Cabrera, les plus horribles de tous. On demanda bien pour lui la croix de la Légion d'honneur et le grade de chef de bataillon, mais l'empereur était alors en Autriche, il réservait ses faveurs aux actions d'éclat qui se faisaient sous ses yeux. Il n'aimait pas ceux qui se laissaient prendre, et fut d'ailleurs assez mécontent des affaires du Portugal. Max resta sur les pontons de 1810 à 1814. Pendant ces 4 années, il s'y démoralisa complètement, car les pontons étaient le bagne moins le crime et l'infamie. D'abord pour conserver son libre arbitre et se défendre de la corruption qui ravageait ces ignobles prisons indignes d'un peuple civilisé, le jeune et beau capitaine tua en duel, s'y battait en duel dans un espace de 6 pieds carrés, 7 bretteurs ou tyrans dont il débarrassa son ponton à la grande joie des victimes. Max régna sur son ponton grâce à l'habileté prodigieuse qu'il acquit dans le maniement des armes, à sa forme corporelle et à son adresse. Mais il commit à son tour des actes arbitraires. Il eut des complaisants qui travaillèrent pour lui, qui se firent ses courtisans. Dans cette école de douleur, où les caractères aigris ne rêvaient que vengeance, où les sophismes éclos dans ses cervelles entassées légitimaient les pensées mauvaises, Max se déprava tout à fait. Il écouta les opinions de ceux qui rêvaient la fortune à tout prix, sans reculer devant les résultats d'une action criminelle, pourvu qu'elle fût accomplie sans preuve. Enfin, à la paix, il sortit perverti, quoique innocent, capable d'être un grand politique dans une haute sphère et un misérable dans la vie privée, selon les circonstances de sa destinée. De retour à Issoudun, il apprit la déplorable fin de son père et de sa mère. Comme tous les gens qui se livrent à leur passion et qui font, selon le proverbe, la vie courte et bonne, les Gilets étaient morts dans la plus affreuse indigence à l'hôpital. Presque aussitôt, la nouvelle du débarquement de Napoléon à Cannes se répandit par toute la France. Max n'eut alors rien de mieux à faire que d'aller demander à Paris son grade de chef de bataillon et sa croix. Le maréchal, qui eut alors le portefeuille de la guerre, se souvint de la belle conduite du capitaine Gilet en Portugal. Il le plaça dans la garde comme capitaine, ce qui lui donnait dans la ligne le grade de chef de bataillon. Mais il ne put lui obtenir la croix. L'empereur a dit que vous sauriez bien la gagner à la première affaire, lui dit le maréchal. En effet, l'empereur nota le brave capitaine pour être décoré le soir du combat de Fleurus, où Gilet se fit remarquer. Après la bataille de Waterloo, Max se retira sur la Loire. Au licenciement, le maréchal Feltre ne reconnut à Gilet ni son grade ni sa croix. Le soldat de Napoléon revint à Issoudun dans un état d'exaspération assez facile à comprendre. Il ne voulait servir qu'avec la croix et le grade de chef de bataillon. Les bureaux trouvèrent ces conditions exorbitantes chez un jeune homme de 25 ans sans nom et qui pouvait devenir ainsi colonel à 30 ans. Max envoya donc sa démission. Le commandant, car entre eux les bonapartistes se reconnurent les grades acquis en 1815, perdit ainsi le maigre traitement appelé la demi-solde qui fut alloué aux officiers de l'armée de la Loire. En voyant ce beau jeune homme, dont tout l'avoir consistait en 20 Napoléons, on s'émut à Issoudun en sa faveur, et le maire lui donna une place de 600 francs d'appointement à la mairie. Max, qui remplit cette place pendant 6 mois environ, la quitta de lui-même et fut remplacé par un capitaine nommé Carpentier, resté comme lui fidèle à Napoléon. Déjà grand maître de l'ordre de la Désœuvrance, Gilet avait pris un genre de vie qui lui fit perdre la considération des premières familles de la ville, sans qu'on le lui témoignât d'ailleurs, et car il était violent et redouté par tout le monde, même par les officiers de l'ancienne armée, qui refusèrent comme lui de servir et qui revinrent planter leurs choses en Berry. Le peu d'affection des gens nés à Issoudun pour les Bourbons n'a rien de surprenant d'après le tableau qui précède. Aussi, relativement à son peu d'importance, y eut-il dans cette petite ville plus de bonapartistes que partout ailleurs. Les bonapartistes se firent, comme on sait, presque tous libéraux. On comptait à Issoudun ou dans les environs une douzaine d'officiers dans la position de Maxence et qui le prirent pour chef tant il leur plut. À l'exception cependant de ce Carpentier, son successeur, et d'un certain monsieur Mignonnet, ex-capitaine d'artillerie dans la garde. Carpentier, officier de cavalerie parvenu, se maria tout d'abord et appartint à l'une des familles les plus considérables de la ville, les Bornichéraud, et Mignonnet, élevé à l'école polytechnique, avait servi dans un corps qui s'attribue une espèce de supériorité sur les autres. Il y eut dans les armées impériales deux nuances chez les militaires. Une grande partie eut pour le bourgeois, pour le Pékin, un mépris égal à celui des nobles pour les vilains, du conquérant pour le conquis. Ceux-là n'observaient pas toujours les lois de l'honneur dans leurs relations avec le civil, ou ne blâmaient pas trop ceux qui sabraient le bourgeois. Les autres, et surtout l'artillerie, par suite de son républicanisme peut-être, n'adoptèrent pas cette doctrine qui ne tenait à rien moins qu'à faire deux Frances, une France militaire et une France civile. Si donc le commandant Potel et le capitaine Renard, deux officiers du faubourg de Rome, dont les opinions sur les Pékins ne varièrent pas, furent les amis quand même de Maxence Gilet, le commandant Mignonnet et le capitaine Carpentier se rangèrent du côté de la bourgeoisie en trouvant la conduite de Max indigne d'un homme d'honneur. Le commandant Mignonnet, petit homme sec, plein de dignité, s'occupa des problèmes que la machine à vapeur offrait à résoudre et vécut modestement en faisant sa société de monsieur et de madame Carpentier. Ses mœurs douces et ses occupations scientifiques lui méritèrent la considération de toute la ville. Aussi disait-on que messieurs Mignonnet et Carpentier étaient de tout autre genre que le commandant Potel et les capitaines Renard, Maxence et autres habitués du café militaire qui conservaient les mœurs soldatesques et les errements de l'Empire. Au moment où madame Bridau revenait à Issoudun, Max était donc exclu du monde bourgeois. Ce garçon se rendait d'ailleurs lui-même justice en ne se présentant point dans la société dite le cercle et ne se plaignant jamais de la triste réprobation dont il était l'objet, quoiqu'il fût le jeune homme le plus élégant, le mieux mis de tout Issoudun, qu'il y fît une grande dépense et qu'il eût par exception un cheval. Chose aussi étrange à Issoudun que celui de Lord Byron à Venise. On va voir comment, pauvre et sans ressources, Maxence fut mis en état d'être le fashionable d'Issoudun. Car les moyens honteux qui lui valurent le mépris des gens timorés ou religieux tiennent aux intérêts qui amenaient Agathe et Joseph à Issoudun. À l'audace de son maintien, à l'expression de sa physionomie, Max paraissait se soucier fort peu de l'opinion publique. Il comptait sans doute prendre un jour sa revanche et régner sur ceux-là même qui le méprisaient. D'ailleurs, si la bourgeoisie mésestimait Max, l'admiration que son caractère excitait parmi le peuple formait un contrepoids à cette opinion. Son courage, sa prestance, sa décision devaient plaire à la masse, à qui sa dépravation fut d'ailleurs inconnue, et que les bourgeois ne soupçonnaient même point dans toute son étendue. Max jouait à Issoudun un rôle presque semblable à celui du forgeron dans La Jolie Fille de Perth. Il y était le champion du bonapartisme et de l'opposition. On comptait sur lui comme les bourgeois de Perth comptaient sur Smith dans les grandes occasions. Une affaire mise sur tout en relief, le héros et la victime des 100 jours. En 1819, un bataillon commandé par des officiers royalistes, jeunes gens sortis de la Maison Rouge, passa par Issoudun en allant à Bourges y tenir garnison. Ne sachant que faire dans une ville aussi constitutionnelle qu'Issoudun, les officiers allèrent passer le temps au café militaire. Dans toutes les villes de province, il existe un café militaire. Celui d'Issoudun, bâti dans un coin du rempart sur la place d'armes et tenu par la veuve d'un ancien officier, servait naturellement de club aux bonapartistes de la ville, aux officiers en demi-solde ou à ceux qui partageaient les opinions de Max et à qui l'esprit de la ville permettait l'expression de leur culte pour l'empereur. Dès 1816, il se fit à Issoudun, tous les ans, un repas pour fêter l'anniversaire du couronnement de Napoléon. Les trois premiers royalistes qui vinrent demandèrent des journaux et, entre autres, la quotidienne « Le drapeau blanc ». Les opinions d'Issoudun, celles du café militaire surtout, ne comportaient point de journaux royalistes. Le café n'avait que le commerce, non que le constitutionnel, supprimé par un arrêt, fut forcé de prendre pendant quelques années. Mais comme en paraissant pour la première fois sous ce titre, il commença son premier pari par ces mots « Le commerce est essentiellement constitutionnel ». Alors on continuait à l'appeler « le constitutionnel ». Tous les abonnés saisirent le calembour plein d'opposition et de malice par lequel on les priait de ne pas faire attention à l'enseigne « le vin devant être toujours le même ». Du haut de son comptoir, la grosse dame répondit aux royalistes qu'elle n'avait pas les journaux demandés. « Quels journaux recevez-vous donc ?» fit un des officiers à un capitaine. Le garçon, un petit jeune homme en veste de drap bleu et orné d'un tablier de grosse toile, apporta le commerce. « Ah, c'est là votre journal, en avez-vous un autre ?»« Non, dit le garçon, c'est le seul. » Le capitaine déchire la feuille de l'opposition, la jette en morceaux et crache dessus en disant « Des dominos !» En 10 minutes, la nouvelle de l'insulte faite à l'opposition constitutionnelle et au libéralisme dans la personne du sacro-saint journal, qui attaquait les prêtres avec le courage et l'esprit que vous savez, courut par les rues, se répandit comme la lumière dans les maisons. On se la conta de place en place. Le même mot fut à la fois dans toutes les bouches « Avertissons Max !» Max sut bientôt l'affaire. Les officiers n'avaient pas fini leur partie de domino que Max, accompagné du commandant Potel et du capitaine Renard, suivi de 30 jeunes gens curieux de voir la fin de cette aventure et qui presque tous restèrent groupés sur la place d'armes, entra dans le café. Le café fut bientôt plein. « Garçon, mon journal, » dit Max d'une voix douce. On joua une petite comédie. La grosse femme d'un air craintif et conciliateur dit « Capitaine, je l'ai prêté. »« Allez le chercher ?» s'écria un des amis de Max. Ne pouvez pas vous passer, vous pouvez pas vous passer du journal ?» dit le garçon. « Nous ne l'avons plus. » Les jeunes officiers riaient et jetaient des regards en coulisses sur les bourgeois. « On l'a déchiré, s'écria un jeune homme de la ville en regardant aux pieds du jeune capitaine royaliste. « Oh, qui donc s'est permis de déchirer le journal ?» demanda Max d'une voix tonnante, les yeux enflammés et se levant les bras croisés. « Et nous avons craché dessus !» répondirent les trois jeunes officiers en se levant et regardant Max. « Vous avez insulté toute la ville !» dit Max devenu blême. « Eh bien après ?» demanda le plus jeune officier. Avec une adresse, une audace et une rapidité que ces jeunes gens ne pouvaient prévoir, Max appliqua deux soufflets au premier officier qui se trouvait en ligne et lui dit « Comprenez-vous le français ?» On alla se battre dans l'allée de Frapelle, 3-3. Potel et Renard ne voulurent jamais permettre que Maxence Gillet fît raison à lui seul aux officiers. Max tua son homme. Le commandant Potel blessa si grièvement le sien que le malheureux, un fils de famille, mourut le lendemain à l'hôpital où il fut transporté. Quant au troisième, il en fut quitte pour un coup d'épée et blessa le capitaine Renard, son adversaire. Le bataillon partit pour Bourges dans la nuit. Cette affaire, qui eut du retentissement en Berry, posa définitivement Maxence Gillet en héros. Les chevaliers de la Désœuvrance, tous jeunes, le plus âgé n'avait pas 25 ans, admiraient Maxence. Quelques-uns d'entre eux, loin de partager la pruderie, la rigidité de leur famille à l'égard de Max, enviaient sa position et le trouvaient bien heureux. Sous un tel chef, l'ordre fit des merveilles. À partir du mois de janvier 1817, il ne se passa pas de semaine que la ville ne fut mise en émoi par un nouveau tour. Max, par point d'honneur, exigea des chevaliers certaines conditions. On promulgua des statuts. Ces diables devinrent alertes comme les élèves d'Amoros, hardis comme des Milan, habiles à tous les exercices, forts et adroits comme des malfaiteurs. Ils se perfectionnèrent dans le métier de grimper sur les toits, d'escalader les maisons, de sauter, de marcher sans bruit, de gâcher du plâtre et de condamner une porte. Ils eurent un arsenal de cordes, d'échelles, d'outils et de déguisements. Aussi les chevaliers de la Désœuvrance arrivèrent-ils au beau idéal de la malice, non seulement dans l'exécution, mais encore dans la conception de leur tour. Ils finirent par avoir ce génie du mal qui réjouissait tant Panurge, qui provoque le rire et qui rend la victime si ridicule qu'elle n'ose se plaindre. Ces fils de famille avaient d'ailleurs dans les maisons des intelligences qui leur permettaient d'obtenir les renseignements utiles à la perpétration de leurs attentats. Par un grand froid, ces diables incarnés transportaient très bien un poêle de la salle dans la cour et le bourraient de bois de manière à ce que le feu durât encore au matin. On apprenait alors par la ville que Monsieur Untel, un avare, avait essayé de chauffer sa cour. Il se mettait quelquefois tous en embuscade dans la grande rue ou dans la rue basse, deux rues qui sont comme les deux artères de la ville et où débouchent beaucoup de petites rues transversales. Tapis, chacun à l'angle d'un mur, au coin d'une de ces petites rues, et à la tête au vent, au milieu du premier sommeil de chaque ménage, il criait d'une voix effarée de porte en porte d'un bout de la ville à l'autre. « Eh bien, qu'est-ce? Qu'est-ce ?» Ces demandes répétées éveillaient les bourgeois qui se montraient en chemise et en bonnet de coton, une lumière à la main, en s'interrogeant tous, en faisant les plus étranges colloques et les plus curieuses faces du monde. Il y avait un pauvre relieur très vieux qui croyait aux démons. Comme presque tous les artisans de province, il travaillait dans une petite boutique basse. Les chevaliers, déguisés en diables, envahissait sa boutique à la nuit, le mettait dans son coffre reniure et le laissait criant à lui seul comme trois brûlés. Le pauvre homme en réveillait les voisins, auxquels il racontait les apparitions de Lucifer, et les voisins ne pouvaient guère le détromper. Ce relieur faillit devenir fou. Au milieu d'un rude hiver, les chevaliers démolirent la cheminée du cabinet du receveur des contributions et la lui rebâtirent en une nuit parfaitement semblable, sans faire de bruit, sans avoir laissé la moindre trace de leur travail. Cette cheminée était intérieurement arrangée de façon à enfumer l'appartement. Le receveur fut 2 mois à souffrir avant de reconnaître pourquoi sa cheminée, qui allait si bien, de laquelle il était si content, lui jouait de pareils tours, et il fut obligé de la reconstruire. Ils mirent un jour 3 bottes de paille soufrées et des papiers huilés dans la cheminée d'une vieille dévote, amie de Madame Hochon. Le matin, en allumant son feu, la pauvre femme, une femme tranquille et douce, crut avoir allumé un volcan. Les pompiers arrivèrent, la ville entière accourut, et comme parmi les pompiers il se trouvait quelques chevaliers de la désœuvrance, ils inondèrent la maison de la vieille femme, à laquelle ils firent peur de la noyade, après lui avoir donné la terreur du feu. Elle fut malade de frayeur. Quand il voulait faire passer à quelqu'un la nuit tout entière en armes et dans de mortelles inquiétudes, il lui écrivait une lettre anonyme pour le prévenir qu'il devait être volé. Puis ils allaient un à un le long de ses murs ou de ses croisées en s'appelant par des coups de sifflet. Un de leurs plus jolis tours, dont s'amusa longtemps la ville, où il se raconte encore, fut d'adresser à tous les héritiers d'une vieille dame fort avare et qui devait laisser une belle succession, un petit mot qui leur annonçait sa mort en les invitant à être exacts pour l'heure où les scellés seraient mis. 80 personnes environ arrivèrent de Vatan, de Saint-Florent, de Vierzon et des environs, tous en grand deuil, mais assez joyeux, les uns avec leurs femmes, les veuves avec leurs fils, les enfants avec leurs pères, qui dans une carriole, qui dans un cabriolet d'osier, qui dans une méchante charrette. Imaginez les scènes entre la servante de la vieille dame et les premiers arrivés, puis les consultations chez les notaires. Mais ce fut comme une émeute dans Issoudun. Enfin, un jour, le sous-préfet s'avisa de trouver cet ordre de choses d'autant plus intolérable qu'il était impossible de savoir qui se permettait ces plaisanteries. Les soupçons pesaient bien sur les jeunes gens, mais comme la garde nationale était alors purement nominale à Issoudun, qu'il n'y avait point de garnison, que le lieutenant de gendarmerie n'avait pas plus de 8 gendarmes avec lui, qu'il ne se faisait pas de patrouille, il était impossible d'avoir des preuves. Le sous-préfet fut mis à l'ordre de nuit et pris aussitôt pour bête noire. Ce fonctionnaire avait l'habitude de déjeuner de 2 œufs frais. Il nourrissait des poules dans sa cour et joignait à la manie de manger les œufs frais celle de vouloir les faire cuire lui-même. Ni sa femme, ni sa servante, ni personne, selon lui, ne savait faire un œuf comme il faut. Il regardait à sa montre et se vantait de l'emporter en ce point sur tout le monde. Il cuisait ses œufs depuis 2 ans avec un succès qui lui méritait 1000 plaisanteries. On enleva pendant 1 mois, toutes les nuits, les œufs de ses poules auxquels on en substitua de durs. Le sous-préfet y perdit son latin et sa réputation de sous-préfet à l'œuf. Il finit par déjeuner autrement. Mais il ne soupçonna point les chevaliers de la désœuvrance, dont le tour était trop bien fait. Max inventa de lui graisser les tuyaux de ses poils toutes les nuits d'une huile saturée d'odeur si fétide qu'il était impossible de tenir chez lui. Ce ne fut pas assez. Un jour, sa femme, en voulant aller à la messe, trouva son châle intérieurement collé par une substance si tenace qu'elle fut obligée de s'en passer. Le sous-préfet demanda son changement. La couardise et la soumission de ce fonctionnaire établirent définitivement l'autorité drôlatique et occulte des chevaliers de la désœuvrance. Entre la rue des Minimes et la place Misère, il existait alors une portion de quartier encadrée par le bras de la rivière forcée vers le bas et en haut par le rempart à partir de la place d'Armes jusqu'au marché à la poterie. Cette espèce de carré informe était remplie par des maisons d'un aspect misérable, pressées les unes contre les autres et divisées par des rues si étroites qu'il est impossible d'y passer deux à la fois. Cet endroit de la ville, espèce de cour des miracles, était occupé par des gens pauvres ou exerçant des professions peu lucratives, logés dans ces taudis et dans des logis si pittoresquement appelés, en langage familier, des maisons borgnes. À toutes les époques, ce fut sans doute un quartier maudit, repère des gens de mauvaise vie, car une de ces rues se nomme la rue du Bourriau. Il est constant que le bourreau de la ville y eut sa maison à Porte Rouge pendant plus de 5 siècles. L'aide du bourreau de Châteauroux y demeure encore, s'il faut en croire le bruit public, car la bourgeoisie ne le voit jamais. Les vignerons entretiennent seuls des relations avec cet être mystérieux qui a hérité de ses prédécesseurs le don de guérir les fractures et les plaies. Jadis, les filles de joie, quand la ville se donnait des airs de capitale, y tenaient leurs assises. Il y avait des revendeurs de choses qui semblent pas devoir trouver d'acheteur, puis des fripiers dont l'étalage empeste, enfin, cette population apocryphe qui se rencontre dans un lieu semblable en presque toutes les villes et où dominent un ou deux juifs. Au coin d'une de ces rues sombres du côté le plus vivant de ce quartier, il exista de 1815 à 1823, et peut-être plus tard, un bouchon tenu par une femme appelée la mère Cognette. Ce bouchon consistait en une maison assez bien bâtie en chêne de pierre blanche, dont les intervalles étaient remplis de moellons et de mortiers, élevés d'un étage et d'un grenier. Au-dessus de la porte brillait cette énorme branche de pin semblable à du bronze de Florence. Comme si ce symbole ne parlait pas assez, l'œil était saisi par le bleu d'une affiche collée au chambranle et où se voyait au-dessous de ces mots « Bonne bière de Mars » un soldat offrant à une femme très décolletée un jet de mousse qui se rend du cruchon vert qu'elle tend en décrivant une arche de pont, le tout d'une couleur à faire évanouir, de la croix. Le rez-de-chaussée se composait d'une immense salle servant à la fois de cuisine et de salle à manger, aux solives de laquelle pendaient accrochées à des clous les provisions nécessaires à l'exploitation de ce commerce. Derrière cette salle, un escalier de meunier menait à l'étage supérieur, mais au pied de cet escalier s'ouvrait une porte donnant dans une petite pièce longue, éclairée sur une de ces cours de province qui ressemble à un tuyau de cheminée, tant elles sont étroites, noires et hautes. Cachée par un appentis et dérobée à tous les regards par des murailles, cette petite salle servait aux mauvais garçons d'Issoudun à tenir leur cour plénière. Ostensiblement, le père Cognet hébergeait les gens de la campagne au jour de marché, mais secrètement, il était l'hôtelier des chevaliers de la désœuvrance. Ce père Cognet, jadis palefrenier dans quelques maisons riches, avait fini par épouser la Cognette, une ancienne cuisinière de bonne maison. Le faubourg de Rome continue, comme en Italie et en Pologne, à féminiser à la manière latine le nom du mari pour la femme. réunissant leurs économies, le père Cognet et sa femme avaient acheté cette maison pour s'y établir comme artier. La Cognette, femme d'environ 40 ans, de haute taille, grassouillette, ayant le nez à la roxelane, la peau bistrée, les chevaux d'un noir de jais, les yeux bruns, ronds et vifs, un air intelligent et rieur, fut choisie par Maxence Gillet pour être la Léonarde de l'ordre à cause de son caractère et de ses talents en cuisine. Le père Cognet pouvait avoir 56 ans. Il était trapu, soumis à sa femme, et selon la plaisanterie incessamment répétée par elle, il ne pouvait voir les choses que d'un bon œil car il était borgne. En 7 ans, de 1816 à 1823, ni le mari ni la femme ne commirent la plus légère indiscrétion sur ce qui se faisait nuitamment chez eux ou sur ce qui s'y complotait, et ils eurent toujours la plus vive affection pour tous les chevaliers. Quant à leur dévouement, il était absolu, mais peut-être le trouvera-t-on moins beau si l'on en vient à songer que leur intérêt cautionnait leur silence et leur affection. À quelque heure de nuit que les chevaliers tombassent chez la Cognette, en frappant d'une certaine manière, le père Cognet, averti par ce signal, se levait, allumait le feu et les chandelles, ouvrait la porte, allait chercher à la cave des vins achetés exprès pour l'ordre, et la Cognette leur cuisinait un exquis souper, soit avant, soit après les expéditions résolues, ou la veille, ou pendant la journée. Pendant que Madame Brideau voyageait d'Orléans à Issoudun, les chevaliers de la Désœuvrance préparèrent un de leurs meilleurs tours. Un vieil Espagnol, ancien prisonnier de guerre, et qui, lors de la paix, était resté dans le pays où il faisait un petit commerce de grains, vint de bonne heure au marché et laissa sa charrette vide au bas de la tour d'Issoudun. Maxence, arrivé le premier au rendez-vous indiqué pour cette nuit au pied de la tour, fut interpellé par cette question faite à voix basse.
« Que ferons-nous cette nuit ?»«
Ah, la charrette du père Fario est là, répondit-il. J'ai failli me casser le nez dessus. Montons-la d'abord sur la butte de la tour, nous verrons après. » Quand Richard construisit la tour d'Issoudun, il la planta, comme il a été dit, sur les ruines de la basilique assise à la place du temple romain et du dôme celtique. Ces ruines, qui représentaient chacune une longue période de siècles, formèrent une montagne grosse des monuments de trois âges. La tour de Richard, cœur de lion, se trouve donc au sommet d'un cône dont la pente est de toutes parts également roide et où l'on ne parvient que par escalade. Pour bien peindre en peu de mots l'attitude de cette cour, on peut la comparer à l'obélisque de Luxor sur son piédestal. Le piédestal de la tour d'Issoudun, qui recelait alors tant de trésors archéologiques inconnus, a du côté de la ville 80 pieds de hauteur. En une heure, la charrette fut démontée, hissée pièce à pièce sur la butte au pied de la tour par un travail semblable à celui des soldats qui portèrent l'artillerie au passage du Mont-Saint-Bernard. On remit la charrette en état et l'on fit disparaître toutes les traces du travail avec un tel soin qu'elle semblait avoir été transportée là par le diable ou par la baguette d'une fée. Après ce haut fait, les chevaliers, ayant faim et soif, revinrent tous chez la Cognette et se virent bientôt attablés dans la petite salle basse où ils riaient par avance de la figure que ferait le Fario quand vers les 10 heures il chercherait sa charrette. Naturellement, les chevaliers ne faisaient pas leur farce toutes les nuits. Le génie des Sganarelles, des Mascaris et des Scapins réunis n'aurait pas suffi à trouver 360 mauvais tours par an. D'abord, les circonstances ne s'y prêtaient pas toujours. Il faisait un trop beau clair de lune, Le dernier tour avait trop irrité les gens sages, et puis tel ou tel refusait son concours quand il s'agissait d'un parent. Mais si les drôles ne se voyaient pas toutes les nuits chez la cognette, ils se rencontraient pendant la journée et se livraient ensemble au plaisir permis de la chasse ou des vendanges en automne et du patin en hiver. Dans cette réunion de 20 jeunes gens de la ville qui protestaient ainsi contre sa somnolence sociale, il s'en trouva quelques-uns plus étroitement liés que les autres avec Max ou qui firent de lui leur idole. Un pareil caractère fanatise souvent la jeunesse. Or, les deux petits-fils de Madame Auchon, François Auchon et Baruch Borniche, étaient les séides de Max. Ces deux garçons regardaient Max presque comme leur cousin, en admettant l'opinion du pays sur sa parenté de la main gauche avec les Lousteaux. Max prêtait d'ailleurs généreusement à ces deux jeunes gens l'argent que leur grand-père Auchon refusait à leur plaisir. Il les emmenait à la chasse, il les formait, il exerçait enfin sur eux une influence bien supérieure à celle de la famille. Orphelins tous deux, ces deux jeunes gens restaient quoique majeurs sous la tutelle de M. Auchon, leur grand-père, à cause de circonstances qui seront expliquées au moment où le fameux M. Auchon paraîtra dans cette scène. En ce moment, François et Baruch, nommons-les par leur prénom pour la clarté de cette histoire, étaient l'un à droite, l'autre à gauche de Max, au milieu de la table assez mal éclairée par la lueur fuligineuse de quatre chandelles des huit à la livre. On avait bu 12 à 15 bouteilles de vin différents, car la réunion ne comptait pas plus de 11 chevaliers. Baruch, dont le prénom indiquait un restant de calvinisme à Issoudun, dit à Max, au moment où le vin avait délié toutes les langues, « Tu vas te trouver menacé dans ton centre. » « Qu'entends-tu par ces paroles ?» demanda Max. « Ben, ma grand-mère a reçu de Madame Bridau, sa filleule, une lettre par laquelle elle lui annonce son arrivée et celle de son fils. Ma grand-mère a fait arranger hier 2 chambres pour les recevoir. « Qu'est-ce que cela me fait ?» dit Max en prenant son verre, le vidant d'un trait et le remettant sur la table par un geste comique. Max avait alors 34 ans. Une des chandelles placées près de lui projetait sa lueur sur sa figure martiale, illuminait bien son front et faisait admirablement ressortir son teint blanc, ses yeux de feu, ses cheveux noirs un peu crépus et d'un brillant de jais. Cette chevelure se retroussait vigoureusement d'elle-même au-dessus du front et aux tempes, en dessinant ainsi nettement 5 langues noires que nos ancêtres appelaient les 5 pointes. Malgré ces brusques oppositions de blanc et de noir, Max avait une physionomie très douce, qui tirait son charme d'une coupe semblable à celle que Raphaël donne à ses figures de vierge, d'une bouche bien modelée, et sur les lèvres de laquelle errait un sourire gracieux, espèce de contenance que Max avait fini par prendre. Le riche coloris qui nuance les figures berrichonnes ajoutait encore à son air de bonne humeur. Quand il riait vraiment, il montrait 32 dents dignes de parer la bouche d'une petite maîtresse. D'une taille de 5 pieds 4 pouces, Max était admirablement bien proportionné, ni gras, ni maigre. Si ses mains soignées étaient blanches et assez belles, ses pieds rappelaient le faubourg de Rome et le fantassin de l'Empire. Il eût certes fait un magnifique général de division. Il avait des épaules à porter une fortune de maréchal de France et une poitrine assez large pour tous les ordres de l'Europe. L'intelligence animait ses mouvements. Enfin, né gracieux comme presque tous les enfants de l'amour, la noblesse de son vrai père éclatait en lui. Tu ne sais donc pas, Max, lui cria du bout de la table le fils d'un ancien chirurgien-major appelé Godet, le meilleur médecin de la ville, que la filleule de Madame Hochon est la sœur de Rouget. Si elle vient avec son fils le peintre, c'est sans doute pour avoir la succession du bonhomme et adieu ta vendange. Max fronça les sourcils, puis, par un regard qui courut de visage en visage autour de la table, il examina l'effet produit par cette apostrophe sur les esprits et il répondit encore « Oh, qu'est-ce que ça me fait ?»« Mais, reprit François, il me semble que Sylvie Rouget révoquait son testament dans le cas où il en aurait fait un au profit de la rabouilleuse. » Ici, Max coupa la parole à son séide par ces mots. Quand, en venant ici, je vous ai entendu nommer un des cinq hochons, suivant le calembour qu'on faisait sur vos noms depuis 30 ans, j'ai fermé le bec à celui qui t'appelait ainsi, mon cher François, et d'une si verte manière que depuis personne à Issoudun n'a répété cette niaiserie devant moi, du moins un des cinq cochons. Et voilà comment tu t'acquittes avec moi. Tu te sers d'un surnom méprisant pour désigner une femme à laquelle on me s'est attaché. Jamais Max n'en avait autant dit sur ses relations avec la personne à qui François venait de donner le surnom sous lequel elle était connue à Issoudun. L'ancien prisonnier des pontons avait assez d'expérience, le commandant des grenadiers de la garde savait assez, ce qu'est l'honneur, pour deviner d'où venait la mésestime de la ville. Aussi n'avait-il jamais laissé qui que ce soit lui dire un mot au sujet de Mademoiselle Flore Brasier, cette servante maîtresse de Jean-Jacques Rouget, si énergiquement appelée Vermine par la respectable Madame Hochon. D'ailleurs, chacun connaissait Max, trop chatouilleux pour lui parler à ce sujet sans qu'il commençât, et il n'avait jamais commencé. Enfin, il était trop dangereux d'encourir la colère de Max ou de le fâcher pour que ses meilleurs amis plaisantassent de la rabouilleuse. Quand on s'entretint de la liaison de Max avec cette fille devant le commandant Potel et le capitaine Renard, les deux officiers avec lesquels il vivait sur un pied d'égalité, Potel avait répondu « Bon, s'il est le frère naturel de Jean-Jacques Rouget, pourquoi ne voulez-vous pas qu'il y demeure ?» D'ailleurs, après tout, reprit le capitaine Renard, « cette fille est un morceau de roi, et quand il l'aimerait, où est le mal ? Est-ce que le fils Godet n'aime pas Madame Fichet pour avoir la fille en récompense de cette corvée ?» Après cette semonce méritée, François ne retrouva plus le fil de ses idées. Mais il le retrouva bien moins encore quand Max lui dit avec douceur « Allez, continue !»« Oh, ma foi, non !» s'écria François. « Oh, tu te fâches à tort, Max !» cria le fureur Godet. « N'est-il pas convenu que chez la cognette, on peut tous dire ? Ne serions-nous pas tous les ennemis mortels ?» de celui d'entre nous qui se souviendrait hors d'ici de ce qui s'y dit, de ce qui s'y pense ou de ce qui s'y fait. Toute la ville désigne Flore Brasier sous le nom de la rabouilleuse. Si ce surnom a par mégarde échappé à François, est-ce un crime contre la désœuvrance ? Non, dit Max, mais contre notre amitié particulière. La réflexion m'est venue. J'ai pensé que nous étions en désœuvrance et je lui ai dit « continue ». Un profond silence s'établit. La pause fut si gênante pour tout le monde que Max s'écria « Mais je vais continuer pour lui !» Sensation. « Pour vous tous !» Étonnement. « Et vous dire ce que vous pensez !» Profonde sensation. Vous pensez que Flore, la rabouilleuse, la brasier, la gouvernante au père Rouget, Car on l'appelle le père Rouget, ce vieux garçon qui n'aura jamais d'enfant. Vous pensez-je que cette femme fournit depuis mon retour à Issoudun à tous mes besoins? Si je puis jeter par les fenêtres 300 francs par mois, vous régaler souvent comme je le fais ce soir, et vous prêter de l'argent à tous, je prends les écus de la bourse de Mademoiselle Brasier. Eh bien, oui. Profonde sensation. Sacrebleu, oui, mille fois, oui. Oui, Mademoiselle Brasier a couché en joue la succession de ce vieillard. Elle l'a bien gagné de père en fils, dit le fils Godet dans son coin. Vous croyez, continua Max après avoir souri du mot du fils Godet, que j'ai conçu le plan d'épouser Flore après la mort du père Rouget, et qu'alors cette sœur et son fils, de qui j'entends parler pour la première fois, vont mettre mon avenir en péril. Oui, c'est cela, s'écria François. Ben, voilà ce que pensent tous ceux qui sont autour de la table, dit Baruch. Eh bien, soyez calmes, mes amis, répondit Max. Un homme averti en vaut deux. Maintenant, je m'adresse au chevalier de la Deux-Evrances. Si pour envoyer ces Parisiens, j'ai besoin de l'ordre, me prêtera-t-on la main? Oh, dans les limites que nous nous sommes imposées pour faire nos farces, ajouta-t-il vivement, en apercevant un mouvement général. Croyez-vous que je veuille les tuer, les empoisonner? Oh Dieu merci, je ne suis pas imbécile. Et après tout, les bridaux réussiraient. Flore n'aurait que ce qu'elle a, je m'en contenterai, entendez-vous? Je l'aime assez pour la préférer à Mademoiselle Fichet, si Mademoiselle Fichet voulait de moi. Mademoiselle Fichet était la plus riche héritière d'Issoudun, et la main de la fille entrait pour beaucoup dans la passion du fils Godet pour la mère. La franchise a tant de prix que les 11 chevaliers se levèrent comme un seul homme. « Tu es un brave garçon, Max !»« Oh, voilà parler, Max, nous serons les chevaliers de la délivrance. »« Brave pour les bridaux !»« Oh, nous les briderons, les bridaux !» Après tout, on s'est vu trois épouser des bergères. Que diable, le père Lousteau a bien aimé Madame Auger. N'y a-t-il pas moins de mal à aimer une gouvernante libre et sans faire? Si Défunt Rouget est un peu le père de Max, ça se passe en famille. Les opinions sont libres. Vive Max! Ah bon les hypocrites! Buvons à la santé de la belle Flore! Telles furent les 11 réponses, acclamations ou toasts que poussèrent les chevaliers de la Désœuvrance et autorisés, disons-le, par leur morale excessivement relâchée. On voit quel intérêt avait Max en se faisant le grand maître de l'ordre de la Désœuvrance. En inventant des farces, en obligeant les jeunes gens des principales familles, Max voulait s'en faire des appuis pour le jour de sa réhabilitation. Il se leva gracieusement, brandit son verre plein de vin de Bordeaux, et l'on attendit son allocution. Pour le mal que je vous veux, je vous souhaite à tous une femme qui vaille la belle Flore. Quant à l'invasion des parents, je n'ai pour le moment aucune crainte, et pour l'avenir, nous verrons. Ah oui, n'oublions pas la charrette à Fario. Oh, parbleu, elle est en sûreté, dit le fils Godet. Oh, je me charge de finir cette farce-là, s'écria Max. Soyez au marché de bonne heure et venez m'avertir quand le bonhomme cherchera sa brouette. On entendit sonner 3h30 du matin. Les chevaliers sortirent alors en silence pour entrer chacun chez eux en serrant les murailles, sans faire le moindre bruit, chaussés qu'ils étaient de chaussons de lisière. Max regagna lentement la place Saint-Jean, située dans la partie haute de la ville, entre la porte Saint-Jean et la porte Villatte, le quartier des riches bourgeois. Le commandant Gillet avait déguisé ses craintes, mais cette nouvelle l'atteignait au cœur. Depuis son séjour sur ou sous les pontons, il était devenu d'une dissimulation égale en profondeur à sa corruption. D'abord et avant tout, les 40 000 livres de rente en fonds de terre que possédait le père Rouget constituaient la passion de Gillet pour Flore Brazier, croyez-le bien. À la manière dont il se conduisait, il est facile d'apercevoir combien de sécurité la rabouilleuse avait sur lui inspiré sur l'avenir financier qu'elle devait à la tendresse du vieux garçon. Néanmoins, la nouvelle de l'arrivée des héritiers légitimes était de nature à ébranler la foi de Max dans le pouvoir de Flore. Les économies faites depuis 17 ans étaient encore placées au nom de Rouget. Or, si le testament que Flore disait avoir été fait depuis longtemps en sa faveur se révoquait, ses économies pouvaient du moins être sauvées en les faisant mettre au nom de Mademoiselle Brazier. Mais cet imbécile de fille ne m'a pas dit en 7 ans un mot des neveux et de la sœur, s'écria Max en tournant de la rue Marmousse dans la rue de l'Avenier. 750 000 francs placés dans 10 ou 12 études différentes, à Bourges, à Vierzon, à Châteauroux, ne peuvent ni se réaliser ni se placer sur l'état en une semaine, et sans qu'on le sache, dans un pays à disette. Avant tout, il faut se débarrasser de la parenté. Mais une fois que nous en serons délivrés, nous nous dépêcherons de réaliser cette fortune. Enfin, j'y songerai. Max était fatigué. À l'aide de son passe-partout, il rentra chez le père Rouget et se coucha sans faire de bruit en se disant « Oh, demain, mes idées seront nettes !» Il n'est pas inutile de dire d'où venait à la sultane de la place Saint-Jean ce surnom de rabouilleuse et comment elle s'était impatronisée dans la maison Rouget. En avançant en âge, le vieux médecin, père de Jean-Jacques Benoît Brideau, s'aperçut de la nullité de son fils. Il le tint alors assez durement, afin de le jeter dans une routine qui lui servit de sagesse. Mais il le préparait ainsi, sans le savoir, à subir le joug de la première tyrannie qui pourrait lui passer un licou. Un jour, en revenant de sa tournée, ce malicieux et vicieux vieillard aperçut une petite fille ravissante au bord des prairies dans l'avenue de Tivoli. Au bruit du cheval, l'enfant se dressa du fond d'un des ruisseaux qui, vu du haut d'Issoudun, ressemble à des rubans d'argent au milieu d'une robe verte. Semblable à une naïade, la petite montra soudain au docteur une des plus belles têtes de vierge que jamais un peintre ait pu rêver. Le vieux Rouget, qui connaissait tout le pays, ne connaissait pas ce miracle de beauté. La fille, quasi nue, portait une méchante jupe courte, trouée et déchiquetée, en mauvaise étoffe de laine, alternativement rayée de bistre et de blanc. Une feuille de gros papier attachée par un brin d'osier lui servait de coiffure. Dessous ce papier plein de bâtons et d'eau, qui justifiait bien son nom de papier écolier, était tordu et rattaché par un peigne à peigner la queue des chevaux, la plus belle chevelure blonde qu'ait pu souhaiter une fille d'Ève. Sa jolie poitrine hâlée, son cou à peine couvert par un fichu en loques, qui jadis fut un madras, montrait des places blanches au-dessous du hâle. La jupe passée entre les jambes, relevée à mi-corps et attachée par une grosse épingle, faisait assez l'effet d'un caleçon de nageur. Les pieds, les jambes, que l'eau claire permettait d'apercevoir, se recommandait par une délicatesse digne de la statuaire au Moyen Âge. Ce charmant corps exposé au soleil avait un ton rougeâtre qui ne manquait pas de grâce. Le col et la poitrine méritaient d'être enveloppés de cachemire et de soie. Enfin, cette nymphe avait des yeux bleus garnis de cils dont le regard eût fait tomber à genoux un peintre et un poète. Le médecin, assez anatomiste pour reconnaître une taille délicieuse, comprit tout ce que les arts perdraient si ce charmant modèle se détruisait au travail des champs. « D'où es-tu, ma petite? Je ne t'ai jamais vue, » dit le vieux médecin, alors âgé de 70 ans. Cette scène se passait au mois de septembre de l'année 1799. « Je suis de 20 ans, » répondit la fille. En entendant la voix d'un bourgeois, un homme de mauvaise mine, placé à 200 pas de là dans le cours supérieur du ruisseau, leva la tête. « Eh bien, qu'as-tu donc, Flore ? » cria-t-il. « Tu causes au lieu de rabouiller ? Ah, la marchandise s'en ira !»« Et que viens-tu faire de 20 ans ici ?» demanda le médecin, sans s'inquiéter de l'apostrophe. « Ben, je rabouille pour mon oncle brasier, que voilà !» Rabouiller est un mot berrichon qui peint admirablement ce qu'il veut exprimer. C'est l'action de troubler l'eau d'un ruisseau en la faisant bouillonner à l'aide d'une grosse branche d'arbre dont les rameaux sont disposés en forme de raquette. Les écrevisses, effrayées par cette opération, dont le sens leur échappe, remontent précipitamment le cours d'eau et, dans leur trouble, se jettent au milieu des engins que le pêcheur a placé à une distance convenable. Flore Brasier tenait à la main son rabouilloir avec la grâce naturelle à l'innocence. « Mais ton oncle a-t-il la permission de pêcher des écrevisses ?»« Eh bien, ne sommes-nous plus sous un public, il est indivisible !» cria de sa place l'oncle Brasier. Nous sommes sous le directoire, dit le médecin. Je ne connais pas de loi qui permette à un homme de 20 ans de venir pêcher sur le territoire de la commune d'Issoudun, répondit le médecin. As-tu ta mère, petite? Non, monsieur, et mon père est à l'hospice de Bourges. Il est devenu fou à la suite d'un coup de soleil qu'il a reçu dans les champs sur la tête. Et que gagnes-tu? 5 sous par jour pendant toute la saison du rabouillage. J'allons rabouiller jusque dans la Brenne. Durant la moisson, je glane. L'hiver, je file. Tu vas sur 12 ans.
Oui, monsieur.
Veux-tu venir avec moi? Tu seras bien nourri, bien habillé. Tu auras de jolis souliers. « Ah, non, 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 ma nièce doit rester avec moi. J'en suis chargé devant Dieu et devant les zooms, » dit l'oncle Brasier, qui s'était rapproché de sa nièce et du médecin. « Je suis sans tuteur, voyez-vous. » Le médecin retint un sourire et garda son air grave, qui certes eût échappé à tout le monde à l'aspect de l'oncle Brasier. Ce tuteur avait sur la tête un chapeau de paysan rongé par la pluie et par le soleil, découpé comme une feuille de chou, sur laquelle auraient vécu plusieurs chenilles et rapetassées en fil blanc. Sous le chapeau se dessinait une figure noire et creusée, où la bouche, le nez et les yeux formaient 4 points noirs. Sa méchante veste ressemblait à un morceau de tapisserie, et son pantalon était en toile à torchon. Je suis le docteur Rouget, dit le médecin, et puisque tu es le tuteur de cet enfant, amène-la chez moi, à place Saint-Jean. Tu n'auras pas fait une mauvaise journée, ni elle non plus. et sans attendre un mot de réponse, sûr de voir arriver chez lui l'oncle Brasier avec la jolie rabouilleuse, le docteur Rouget piqua des deux verres soudain. En effet, au moment où le médecin se mettait à table, sa cuisinière lui annonça le citoyen et la citoyenne Brasier. « Asseyez-vous, » dit le médecin à l'oncle et à la nièce. Flore et son tuteur, toujours pieds nus, regardaient la salle du docteur avec des yeux hébétés. Voici pourquoi. La maison que Rouget avait héritée des Descoings occupe le milieu de la place Saint-Jean, espèce de carré long et très étroit, planté de quelques tilleuls malingres. Les maisons en cet endroit sont mieux bâties que partout ailleurs, et celle des Descoings est une des plus belles. Cette maison, située en face de celle de M. Hochon, a trois croisées de façade au premier étage et au rez-de-chaussée, une porte cochère qui donne entrée dans une cour au-delà de laquelle s'étend un jardin. Sous la voûte de la porte cochère se trouve la porte d'une vaste salle éclairée par deux croisées sur la rue. La cuisine est derrière la salle, mais séparée par un escalier qui conduit au premier étage et aux mansardes situées au-dessus. En retour de la cuisine s'étendent un bûcher, un hangar où l'on faisait la lessive, une écurie pour deux chevaux et une remise au-dessus desquelles il y a de petits greniers pour l'avoine, le foin, la paille et où couchait alors le domestique du docteur. La salle, si fort admirée par la petite paysanne et par son oncle, avait pour décoration une boiserie sculptée comme on sculptait sous Louis XV et peinte en gris, une belle cheminée en marbre, au-dessus de laquelle Flore se mirait dans une grande glace sans trumeau supérieur et dont la bordure sculptée était dorée. Sur cette boiserie, de distance en distance, se voyaient quelques tableaux, dépouilles des abbayes, de Déols, d'Issoudun, de Saint-Gildas, de Lapré, du Chézal-Benoît, de Saint-Sulpice, des couvents de Bourges et d'Issoudun, que la libéralité de nos rois et des fidèles avait enrichi de dons précieux et des plus belles œuvres dues à la Renaissance. Aussi dans les tableaux conservés par les Descoings et passés aux Rouget, se trouvait-il une sainte famille de l'Albane, un saint Jérôme du Dominicain, une tête de Christ de Jean Bellin, une vierge de Léonard de Vinci, un portement de croix du Titien qui venait du marquis de Bellabre, celui qui soutint un siège et eut la tête tranchée sous Louis XIII, un Lazare de Paul Véronèse, un mariage de la vierge du prêtre génois, deux tableaux d'église de Rubens et une copie d'un tableau du Pérugin, faite par le Pérugin ou par Raphaël. Enfin, deux Corrèges et un Andrea del Sarto. Les Descoings avaient trié ces richesses dans 300 tableaux d'église sans en connaître la valeur et en les choisissant uniquement d'après leur conservation. Plusieurs avaient non seulement des cadres magnifiques, mais encore quelques-uns étaient sous verre. Ce fut à cause de la beauté des cadres et de la valeur que les vitres semblaient annoncer que les Descoings gardèrent ces toiles. Les meubles de cette salle ne manquaient donc pas de ce luxe tant prisé de nos jours, mais alors sans aucun prix à Issoudun. L'horloge placée sur la cheminée entre deux superbes chandeliers d'argent à 6 branches se recommandait par une magnificence abbatiale qui annonçait boule. Les fauteuils en bois de chêne sculpté, garnis tous en tapisserie due à la dévotion de quelques femmes du haut rang, eussent été prisés haut aujourd'hui car ils étaient tous surmontés de couronnes et d'armes. Entre les deux croisées, il existait une riche console venue d'un château, et sur le marbre de laquelle s'élevait un immense pot de la Chine où le docteur mettait son tabac. Ni le médecin, ni son fils, ni la cuisinière, ni le domestique n'avait soin de ses richesses. On crachait sur un foyer d'une exquise délicatesse, dont les moulures dorées étaient jaspées de vert de gris. Un joli lustre, moitié cristal, moitié en fleurs de porcelaine, était criblé, comme le plafond d'où il pendait, de points noirs qui attestaient la liberté dont jouissaient les mouches. Les décoins avaient drapé aux fenêtres des rideaux en brocatelle arrachés au lit de quelque abbé commendataire. À gauche de la porte, un bahut d'une valeur de quelques milliers de francs servait de buffet. « Voyons, Franchette, dit le médecin à ses cuisinières, deux verres et donnez-nous du chenu. » Franchette, grosse servante de Berrichonne, qui passait avant la cognette pour être la meilleure cuisinière d'Issoudun, accourut avec une prestesse qui décelait le despotisme du médecin et aussi quelques curiosités chez elle. « Que vaut un arpent de vigne dans ton pays ?» dit le médecin en versant un verre au grand brasier. « 5 écus en argent ?»« Eh bien, laisse-moi ta nièce comme servante, elle aura 100 écus de gage, et en ta qualité de tuteur, tu toucheras les 100 écus. »«
Tous les ais ?»
fit Brasier en ouvrant des yeux, qui devint grand comme des soucoupes. Oh, je laisse la chose à ta conscience, répondit le docteur. Elle est orpheline. Jusqu'à 8 ans, Flore n'a rien à voir aux recettes.
Oh, sudouzain, ça ferait donc 6 arpents de vigne, dit l'oncle. Mais allez, ben gentille, douce comme un igneau, ben faite et ben agile et ben obéissante. La pauvre créature, elle est jolie, je te veux, de mes pauvres frères.
Et je paye 1 année d'avance, dit le médecin.
Ah, ma foi, dit alors l'oncle, mettez 2 ailes et je vous la rends, car elle sera mieux chez vous que chez nous, que ma femme là-bas, elle ne peut pas la souffrir. « Il n'y a que moi qui la protégeons, cette sainte créature qui est innocente comme l'enfant qui vient de naître. »
En entendant cette dernière phrase, le médecin, frappé par ce mot d'innocente, fit un signe à l'oncle Brasier et sortit avec lui dans la cour et de là dans le jardin, laissant la rabouilleuse devant la table servie entre Franchette et Jean-Jacques, qui la questionnèrent et à qui elle raconta naïvement sa rencontre avec le docteur.
Allons, chère petite mignonne, adieu, fit l'oncle Brasier en revenant embrasser Flore au front. Tu peux bien dire que j'ai fait ton bonheur en te plaçant chez ce brave et digne père des indigents. Faut lui obéir, hein, comme à mes. Sois bien sage, bien gentil et. Fais tout ce qu'il voudra.
Vous arrangerez la chambre au-dessus de la mienne, dit le médecin à Franchette.
Cette petite Flore, qui certes est bien nommée, y couchera de ce soir. Demain, nous ferons venir pour elle le cordonnier et la couturière. Mettez-lui sur le champ un couvert, elle va nous tenir compagnie.
Le soir, dans tout Issoudun, il ne fut question que de l'établissement d'une petite rabouilleuse chez le docteur Rouget. Ce surnom resta dans un pays de moquerie à Mademoiselle Brasier avant, pendant et après sa fortune. Le médecin voulait sans doute faire en petit pour Flore Brasier ce que Louis XV fit en grand pour Mademoiselle de Romans. Mais il s'y prenait trop tard. Louis XV était encore jeune, tandis que le docteur se trouvait à la fleur de la vieillesse. De 12 à 14 ans, la charmante rabouilleuse connut un bonheur sans mélange. Bien mise et beaucoup mieux nippée que la plus riche fille d'Issoudun, elle portait une montre d'or et des bijoux que le docteur lui donna pour encourager ses études. Car elle eut un maître chargé de lui apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais la vie presque animale des paysans avait mis en Flore de telles répugnances pour le vase amer de la science que le docteur en resta là de cette éducation. Ses desseins à l'égard de cet enfant qu'il décrassait, instruisait et formait avec des soins d'autant plus touchants qu'on le croyait incapable de tendresse, furent diversement interprétés par la caqueteuse bourgeoisie de la ville, dont les disettes accréditaient, comme à propos de la naissance de Max et d'Agathe, de fatales erreurs. Il n'est pas facile au public des petites villes de démêler la vérité dans les mille conjectures, au milieu des commentaires contradictoires et à travers toutes les suppositions auxquelles un fait y donne lieu. La province, comme autrefois les politiques de la petite Provence aux Tuileries, veut tout expliquer et finit par tout savoir. Mais chacun tient à la face qu'il affectionne dans l'événement. Il y voit le vrai, le démontre et tient sa version pour la seule bonne. La vérité, malgré la vie à jour et l'espionnage des petites villes, est donc souvent obscurcie et veut, pour être reconnu, ou le temps après lequel la vérité devient indifférente, ou l'impartialité que l'historien et l'homme supérieur prennent en se plaçant à un point de vue élevé. Que voulez-vous que ce vieux singe fasse à son âge d'une petite fille de 15 ans, disait-on 2 ans après l'arrivée de la rabouilleuse. Vous avez raison, répondait-on, il y a longtemps qu'ils sont passés, ces jours de fête. Mon cher, le docteur est révolté de la stupidité de son fils, et il persiste dans sa haine contre sa fille Agathe. Dans cet embarras, peut-être n'a-t-il vécu si sagement depuis 2 ans que pour épouser cette petite, s'il peut avoir d'elle un bon garçon agile et découplé, bien vivant comme Max, faisait observer une tête forte. Laissez-nous donc tranquille. Est-ce qu'après avoir mené la vie que Lousteau et Rouget ont faite de 1770 à 1787, on peut avoir des enfants à 72 ans? Tenez, ce vieux scélérat a lu l'Ancien Testament. Ne fût-ce que comme médecin, il y a vu comment le roi David réchauffait sa vieillesse. Voilà tout, bourgeois. Ah, on dit que Brasier, quand il est aigri, se vante à 20 ans de l'avoir volé, s'écriait un de ces gens qui croient plus particulièrement au mal. Mon Dieu voisin, que ne dit-on pas Issoudun? De 1800 à 1805, pendant 5 ans, le docteur eut les plaisirs de l'éducation de Flore, sans les ennuis que l'ambition et les prétentions de Mademoiselle de Romans donnèrent, dit-on, à Louis le bien-aimé. La petite rabouilleuse était si contente, en comparant sa situation chez le docteur à la vie qu'elle eût menée avec son oncle Brasier, qu'elle se plia sans doute aux exigences de son maître, comme eût fait un esclave en Orient. N'en déplaise aux faiseurs d'idylles ou aux philanthropes, les gens de la campagne ont peu de notions sur certaines vertus, et chez eux, les scrupules viennent d'une pensée intéressée et non d'un sentiment du bien ou du beau. Élevés en vue de la pauvreté, du travail constant, de la misère, cette perspective leur fait considérer tout ce qui peut les tirer de l'enfer, de la faim et du labeur éternel, comme permis, surtout quand la loi ne s'y oppose point. S'il y a des exceptions, elles sont rares. La vertu, socialement parlant, elle accompagne du bien-être et commence à l'instruction. Aussi la rabouilleuse était-elle un objet d'envie pour toutes les filles à 10 lieues à la ronde, quoique sa conduite fût aux yeux de la religion souverainement répréhensible. Flore, née en 1787, fut élevée au milieu des Saturnales de 1793 et de 1798, dont les reflets éclairèrent ses campagnes privées de prêtres, de cultes, d'hôtels, de cérémonies religieuses, où le mariage était un accouplement légal et où les maximes révolutionnaires laissèrent de profondes empreintes à Issoudun surtout, pays où la révolte est traditionnelle. En 1802, le culte catholique était à peine rétabli. Ce fut pour l'empereur une œuvre difficile que de trouver des prêtres. En 1806, bien des paroisses en France étaient encore veuves, tant la réunion d'un clergé décimé par l'échafaud fut lente après une si violente dispersion. En 1802, rien ne pouvait donc blâmer Flore, si ce n'est sa conscience. Mais la conscience ne devait-elle pas être plus faible que l'intérêt chez la pupille de l'oncle Brasier? Si, comme tout le fit supposer, le cynique docteur fut forcé par son âge de respecter une enfant de 15 ans, la rabouilleuse n'en passa pas moins pour une fille très délurée, un mot du pays. Néanmoins, quelques personnes voulurent voir pour elle un certificat d'innocence dans la cessation des soins et des attentions du docteur qui lui marqua pendant les 2 dernières années de sa vie plus que du refroidissement. Le vieux Rouget avait assez tué de monde pour savoir prévoir sa fin. Or, en le trouvant drapé sur son lit de mort dans le manteau de la philosophie encyclopédiste, son notaire le pressa de faire quelque chose en faveur de cette jeune fille, alors âgée de 17 ans. « Eh bien, émancipons-la, » dit-il. Ce mot peint ce vieillard qui ne manquait jamais de tirer ses sarcasmes de la profession même de celui à qui il répondait. En couvrant d'esprit ses mauvaises actions, il se les faisait pardonner, dans un pays où l'esprit a toujours raison, surtout quand il s'appuie sur l'intérêt personnel, bien entendu. Le notaire vit dans ce mot le cri de la haine concentrée d'un homme chez qui la nature avait trompé les calculs de la débauche, une vengeance contre l'innocent objet d'un impuissant amour. Cette opinion fut en quelque sorte confirmée par l'entêtement du docteur qui ne laissa rien à la rabouilleuse et qui dit avec un sourire amer « Elle est bien assez riche de sa beauté !» quand le notaire insista de nouveau sur ce sujet. Jean-Jacques Rouget ne pleura point son père, que Flore pleurait. Le vieux médecin avait rendu son fils très malheureux, surtout depuis sa majorité, et Jean-Jacques fut majeur en 1791. Tandis qu'il avait donné à la petite paysanne le bonheur matériel qui, pour les gens de la campagne, est l'idéal du bonheur. Quand, après l'enterrement du défunt, Fanchette dit à Flore « Eh bien, qu'allez-vous devenir maintenant que monsieur n'est plus ?» Jean-Jacques eut des rayons dans les yeux, et pour la première fois, sa figure immobile s'anima, parut s'éclairer aux rayons d'une pensée et peignit d'un sentiment. « Laissez-nous, » dit-il à Fanchette, qui desservait alors la table. À 17 ans, Flore conservait encore cette finesse de taille et de traits, cette distinction de beauté qui séduisit le docteur et que les femmes du monde savent conserver, mais qui se fanent chez les paysannes aussi rapidement que la fleur des champs. Cependant, cette tendance à l'embonpoint qui gagne toutes les belles campagnardes quand elles ne mènent pas aux champs et au soleil leur vie de travail et de privation, se faisait déjà remarquer en elle. Son corsage était développé. Ses épaules grasses et blanches dessinaient des plans riches et harmonieusement rattachés à son cou qui se plissait déjà. Mais le contour de sa figure restait pur et le menton était encore fin. « Flore, dit Jean-Jacques d'une voix émue, vous êtes bien habituée à cette maison. Oh oui, monsieur Jean. » Au moment de faire sa déclaration, l'héritier se sentit la langue glacée par le souvenir du mort enterré si fraîchement. Il se demanda jusqu'où la bienfaisance de son père était allée. Flore, qui regarda son nouveau maître sans pouvoir en soupçonner la simplicité, attendit pendant quelque temps que Jean-Jacques reprît la parole. Mais elle le quitta, ne sachant que penser du silence obstiné qu'il garda. Quelle que fût l'éducation que la rabouilleuse tenait du docteur, il devait se passer plus d'un jour avant qu'elle connût le caractère de Jean-Jacques, dont voici l'histoire en peu de mots.